Et tout de suite, donc Laure Franek avec nous, que tout le monde connaît maintenant. Vous êtes directrice adjointe des archives départementales à Digne-les-Bains. Bonjour.
Donc bonjour Odile, bonjour à tous.
Bonjour Laure. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une exposition.
Tout à fait. L'exposition que les archives départementales organisent tous les étés à la cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-Bains. Qui ouvrira cette année. Alors, nous inaugurons le 5 juillet et elle sera visible jusqu'au 30 septembre à la cathédrale, tous les jours, tous les après-midi, de 13h15 à 18h. Mais le sujet, quel est le sujet? Alors, cette année, nous vous proposons de vous emmener dans l'ancien évêché de Senez. Un évêché qui n'existe plus depuis la Révolution française, puisque la Révolution française a fait que, à partir de 1789, le découpage des évêchés a correspondu au nouveau découpage administratif en département. Donc, il n'existe pas de département et Senez n'a pas été une préfecture. Donc, du coup, cet évêché a disparu à la Révolution française. Voilà. Et donc, pourquoi avoir choisi Senez? Alors, il y a plusieurs bonnes raisons. Tout d'abord, il y a des fouilles programmées depuis plusieurs années dans la cathédrale et à côté de la cathédrale, au niveau de l'ancien cimetière. C'est dans le cadre d'un projet européen. Donc, les fouilles sont arrêtées là depuis ce printemps et maintenant, les archéologues sont en phase de production de données. C'est aussi parce que les archives départementales, toujours en lien avec ce programme européen et ces fouilles archéologiques, ont participé à ce qu'on appelle un projet collectif de recherche qui permet d'associer tout type de chercheurs, chercheurs universitaires, chercheurs institutionnels, mais aussi des chercheurs amateurs dans le cadre associatif, intéressés par un même sujet. Et là, en l'occurrence, c'était l'ancien diocèse de Senez, pour conjuguer les forces et les informations, tant au niveau historique, archéologique, géologique, sur ce découpage territorial. Voilà, donc il y a eu plusieurs réunions dans le cadre de ce projet collectif de recherche, des données qui ont été produites, dont on a pu faire part au public, notamment dans le cadre de notre journée d'études consacrée à la matière et le bâti, le bois, l'année dernière, où il y a un certain nombre de chercheurs qui collaborent à ce projet collectif de recherche ont pu montrer l'état d'avancée de leurs travaux. Voilà, donc voilà pourquoi nous nous sommes intéressés tout spécialement cette année à Senez. Et cela nous a permis de travailler avec les archéologues. Donc dans cette exposition, il y aura trois volets. Un volet consacré aux fouilles et aux découvertes récentes dans la cathédrale. Donc, je ne suis pas archéologue, mais voilà un peu ce qui ressort de ces découvertes, hein, qui ont été vraiment intéressantes, en fouillant le cœur de la cathédrale, de l'ancienne cathédrale, hein, aujourd'hui qui est devenue donc une simple, entre guillemets, église paroissiale qui s'appelle Notre-Dame de l'Assomption. Donc, en fouillant le cœur de Notre-Dame de l'Assomption, les archéologues ont découvert les bâtiments antiques, donc qui étaient antérieurs au IVe siècle, donc le sanctuaire primitif. Donc, ils ont pu en fouiller une partie. Mathias Dupuis, qui est l'ancien responsable du service départemental d'archéologie, nous présente ses découvertes. Ça a été aussi l'occasion de faire ce qu'on appelle de l'archéologie du bâti, c'est-à-dire de comprendre cette fois-ci comment l'édifice en élévation avait été construit et reconstruit au gré des siècles. Et là, Mathias Dupuis a montré des similitudes de forme entre la construction de Notre-Dame-du-Bourg à Digne-les-Bains, cette fois, qui est dans le même esprit stylistique, et l'ancienne cathédrale de Senez. Donc, Mathias Dupuis revient sur ses hypothèses et qu'est-ce qui l'amène aussi à dater l'évolution du bâtiment par rapport justement aux trouvailles vraiment cette fois-ci dans la maçonnerie, là on est dans l'élévation, parce que les archéologues ils peuvent travailler sous terre, mais aussi dans l'élévation du bâtiment. Et là c'est le cas. Et après, il y a deux autres. Alors, une étudiante en archéologie qui, toujours dans le cadre de cette exposition et de ces fouilles, les archéologues dans le remblai, en fait, quand le bâtiment primitif a été abandonné, en fait, ça peut nous choquer aujourd'hui, mais ils ont détruit en fait ce qu'il y avait pour reconstruire. Et il y avait une fresque. il y avait une fresque, sans doute dans le cœur. Et donc, dans leur emblée, les archéologues ont trouvé une multitude de petits morceaux de l'ancienne fresque, avec donc des traces d'enduit peint. Et on devine, ici ou là, un motif géométrique, un motif floral, un œil même. Donc, il y avait des personnages. Et donc, cette jeune archéologue, qui est étudiante donc, en archéologie à l'université d'Aix-en-Provence, d'Aix-Marseille, est en train de reconstituer une partie du puzzle seulement, puisque l'ancien cœur n'a pas été fouillé en totalité, hein, donc on n'a qu'une moitié en fait déremblée, hein, mais en train d'inventorier tous ces débris, il y en a des milliers, et de proposer une datation. Donc pour l'instant, la fourchette est encore assez large, hein, on est entre le 6e et le 11e siècle. Et de proposer éventuellement des pistes d'iconographie. Donc voilà, c'est tout à fait passionnant. Là, c'est pareil, hein, on est en cours de production de données, donc on est à un état donné de la recherche. Hein, de toute façon, même en histoire, rien n'est jamais définitif. Hein, chaque trouvaille, chaque découverte modifie notre perception du passé. Et la dernière archéologue... est spécialisé dans les fouilles de sépultures. Et donc, il y a eu des sépultures trouvées dans l'emprise actuelle de l'ancienne cathédrale, mais aussi au niveau de l'ancien... Enfin, on est entre le cimetière. Je ne sais pas si vous connaissez Sénèse, mais il y a la cathédrale, il y a un boulodrome, et puis il y a le cimetière. Voilà. Et donc, il y a une partie du cimetière qui était en herbe. Et là, ils ont pu fouiller et trouver donc des sépultures. Voilà, donc là, c'est très intéressant parce que ça nous renseigne sur la façon d'inhumer à différentes époques. Il y a notamment des sépultures d'enfants aussi. Voilà, donc des informations tout à fait récentes et nouvelles, directement issues des fouilles qui se sont terminées. Voilà, donc ça, c'est pour la partie archéologique. Alors, en plus, les archéologues, dans le cours du chantier, on fait ce qu'on appelle un time-lapse. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent. Qu'est-ce que c'est qu'un time-lapse ? Un gros mot anglais.
Un laps de temps.
Voilà. Alors oui, c'est un dispositif qui on installe un appareil photographique en fixe, mm-hmm. et qui prend des photos à intervalles réguliers, mais sur une très longue période. Et ensuite, un ingénieur image monte toutes ces images en accéléré. Et ce qui fait que, par exemple, pour un chantier qui a un temps long de dérouler, on ne peut pas faire un plan fixe pour montrer un archéologue fouillé, ça sera assez répétitif. Là, on a un petit film animé, mais avec des séquences fixes très très rapprochées, qui permettent de voir l'évolution du chantier sur plusieurs mois. Donc depuis le décapage, on enlève les dalles, on commence à creuser, le va-et-vient des archéologues, les visiteurs, et puis petit à petit, le chantier qui se referme. Voilà. C'est un procédé qui est utilisé aussi par les naturalistes.
Hein, pour l'éclosion des fleurs.
Voilà, tout à fait, ou les passages d'animaux. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est un procédé que tout le monde connaît, mais on ne connaît pas forcément le nom.
Non,
voilà, time-lapse. Donc nous allons pouvoir montrer au public le time-lapse qui a été produit dans le cadre du chantier de fouilles, ainsi qu'une maquette en trois dimensions numérique, hein, qui permet de se promener dans l'église ancienne cathédrale de Senèse. Voilà pour la partie archéologique. Voilà, ensuite, la seconde partie de notre travail sera centrée sur Jean Soanen. Alors, Jean Soanen, c'est un évêque qui est bien connu de tous les historiens qui s'intéressent à l'histoire religieuse, car c'est un évêque qui a écrit, qui a laissé à la postérité des textes fort bien écrits. Et l'un de ses écrits a précipité sa chute, j'allais dire, puisqu'il a été démis de ses fonctions. Alors, bon, Jean Soanen, il est né en 1695 et il est décédé en 1740, mais il a été démis de ses fonctions d'évêque de Senès, donc en 1727. Alors, pourquoi démis de ses fonctions ? Alors, à cette période de l'histoire de France, donc on est à la fin du XVIIe, début XVIIIe, il y a une querelle religieuse et politique intense qu'on appelle le jansénisme, autour du jansénisme. Donc certains connaissent peut-être plus volontiers Port-Royal, hein. Monterland a fait une très belle pièce de théâtre autour de ces questions. Donc, alors, c'est vraiment un sujet extrêmement compliqué, donc, et je ne prétends pas être une grande spécialiste de ce sujet, mais pour faire simple, on est à un moment donné où le roi de France accroît vraiment ses prérogatives, hein, il y a un pouvoir politique très, très, très intense, à la fois sur ce qu'on appelle le temporel, hein, donc tout ce qui n'est pas spirituel, hein, mais aussi le spirituel. Hein, et donc il y a volonté d'avoir mainmise sur le clergé. Hein. Et en même temps, il y a le pape. Et le pape peut être vécu comme une espèce de contre-pouvoir. Et en fait, à un moment donné, notamment Louis XIV, hein, pour le nommer dans le roi absolu, décide de ne plus favoriser finalement ce qu'on appelait le gallicanisme, hein, c'est-à-dire ce courant du clergé français qui favorisait finalement une certaine indépendance par rapport au pouvoir romain, le pouvoir du pape, parce que Louis XIV voit là aussi des germes d'une potentielle rébellion par rapport au pouvoir royal aussi. Et pour mettre un frein à ça, alors je schématise énormément, évidemment, parce que tout ça s'est déroulé sur plusieurs décennies, hein, ça ne s'est pas fait en trois jours, ce n'est pas une révolution qui s'est faite d'un coup, mais pour mettre un frein justement à ces éventuelles volontés de prendre des libertés par rapport au pouvoir royal, eh bien, Louis XIV, en fait, accepte, c'est pas lui d'accepter, mais si vous voulez, en acceptant que Jean Soanen soit démis de ses fonctions après avoir été convoqué devant un concile à Embrun, il reconnaît au pape un pouvoir spirituel sur absolument tout le clergé dans tous les pays sur lesquels la papauté exerce son action. Donc c'est cette, en fait, le pape avait prononcé une bulle qui s'appelle la bulle Unigenitus, hein, donc le titre est beaucoup plus long, mais en général on garde que le premier, et où il condamne justement ces positions jansénistes. Alors qu'est-ce que c'est que le jansénisme? Parce que du coup, je n'ai parlé que de l'aspect politique. Alors le jansénisme, alors faut imaginer aussi que dans le même temps, donc il y a ces querelles de pouvoir politique, hein, mais il y a aussi une grande querelle religieuse, c'est la réforme protestante. Voilà. Et la réforme protestante qui est antérieure, hein, et qui oblige les catholiques à se repositionner par rapport à leur croyance, à leur rituel. Voilà. Et donc, très longtemps, on a appelé ça la contre-réforme. Aujourd'hui, on appelle ça plutôt la réforme catholique. La réforme catholique a fait qu'il y a eu des conciles, notamment voilà, le concile de Trente, hein, pour remettre en place une religion et aussi un clergé qui puisse faire face en fait à cette montée du protestantisme. Et le jansénisme, il s'inscrit dans cette histoire. Le jansénisme, c'est un courant catholique, mais qui par bien des égards, par sa rigueur, par justement aussi son indépendance par rapport au pape, son gallicanisme, est un courant qui fait un peu penser au protestantisme. Et c'est le péché, entre guillemets, qui sera reproché à ce mouvement et qui fera que finalement le pape fera tout pour interdire ces religieux et religieuses d'ailleurs, ou ces civils qui avaient des penchants jansénistes. Et Jean Soanen, il a été accusé d'être un janséniste. Alors là aussi, les historiens sont partagés. C'est clair que Jean Soanen était vraiment un évêque d'une grande rigueur, d'une très haute exigence vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de ses ouailles. Il avait des sympathies jansénistes parce que il est rattaché au mouvement des oratoriens, avec notamment un personnage qui était son confesseur, Quesnel. Voilà, qui avait un réel goût, une réelle attirance pour le jansénisme. Et pourquoi on a frappé, entre guillemets, Jean Soanen ? Mais parce que c'était l'évêque qui était sans appui, qui n'était pas mondain, et qui était dans l'un des plus petits diocèses de France, à savoir le diocèse de Senez. Et donc, il a servi d'exemple, en fait. Il a servi d'exemple, de sonnette d'alarme pour tous les autres, pour dire, attention, on tape sur le plus petit, celui qui ne va rien dire, mais les autres peuvent aussi être punis. Et en effet, le jansénisme a connu un net coup d'arrêt à la fin du règne de Louis XIV. Voilà. Donc c'est vraiment un évêque réellement intéressant parce que au niveau du contexte religieux et politique de l'époque, et alors en plus, comme je l'ai dit, il a produit des ouvrages, notamment une grande instruction pastorale où très clairement il se positionne contre cette fameuse bulle qui condamne le mouvement jansénisme. Alors vous savez, bon, c'est toujours dans les textes religieux, les choses sont dites sans être dites. Vous voyez, c'est toujours faut toujours voir un petit peu derrière. Mais c'est pour cette instruction pastorale, ça va vraiment précipiter sa chute. Et en plus, c'est ce qu'on pourrait appeler un évêque de terrain, c'est-à-dire que quand il prend la tête du diocèse de Senez en 1695, il est plus très jeune déjà, et c'est son premier en fait poste, on va dire ça comme ça, de pasteur à l'échelle d'un évêché. Et il va prendre cette fonction très à cœur, mais justement parce qu'il a cette rigueur, il a cette pureté de référence à l'Église primitive, pour laquelle le troupeau, le berger qui guide son troupeau est extrêmement important. Et il va littéralement sillonner son diocèse, ce qui n'est pas le cas de tous les évêques de l'Ancien Régime. Parce que être évêque était une charge souvent mondaine. C'est-à-dire que on désignait un évêque... C'était toujours des gens issus de la noblesse et ou de la noblesse de robe, donc quand même c'était pas des issus du tout du monde paysan, et puis c'était des charges honorifiques et puis des charges qui rapportaient financièrement. Il y avait un pouvoir judiciaire aussi, c'était un seigneur en fait, l'évêque était un seigneur, donc c'était des charges qui intéressaient les nobles, surtout quand il fallait caser un petit dernier dont on ne savait que faire. Voilà, il y a aussi tout ça. Et donc, les évêques résidaient rarement dans leur évêché. Donc, c'était parfois assez strictement honorifique. C'est d'ailleurs une des raisons pour Jean Soanen de râler, parce qu'il a un petit côté un peu râleur quand même, de dire que c'est pas comme ça qu'on va faire que l'Église va bien fonctionner, de nommer un clergé qui finalement ne connaît pas ni son territoire, ni ses ouailles. Ça fait écho à plein de choses qu'on entend aujourd'hui, avec dans le monde politique notamment. C'est assez amusant, comme quoi il y a des grandes permanences dans l'histoire. Rien ne change et tout change à la fois. Et donc Jean Soanen va littéralement sillonner son diocèse. Et les évêques, quand ils faisaient ce qu'on appelait des visites pastorales, donc ils allaient dans chaque paroisse. Et c'était l'occasion pour eux de faire le point sur les biens de l'église, de la paroisse, sur le clergé, mais aussi sur les laïcs, sur la façon dont le culte était rendu. Est-ce que les ornements liturgiques étaient bien dans la norme, notamment par rapport au dernier concile de Trente. Voilà. C'est l'occasion de faire le point, en fait, c'est comme une inspection, en fait. Sauf que les visites pastorales des autres évêques dans d'autres évêchés sont souvent très répétitives, se bornent à dresser un inventaire parfois assez succinct du mobilier qui se trouve dans l'église, et finalement c'est assez lassant comme lecture. Avec Jean Soanen, on a une littérature absolument extraordinaire qui a été déjà bien étudiée par beaucoup d'historiens. C'est que vraiment il s'attache à comprendre comment les gens vivent. Alors souvent c'est pour critiquer parce qu'il trouve que les gens s'amusent un peu trop, notamment le jour du Seigneur, ou alors travaillent le jour du Seigneur. Alors pour lui, travailler, c'est même arroser son jardin, transporter des denrées, ça va jusque-là. Donc il pointe ces problèmes, qui sont pour lui un problème, puisqu'on ne respecte pas le jour du Seigneur. Il va jusqu'à nommer des gens qui ne respectent pas leur devoir pascal. Voilà, mais carrément, vous avez les noms.
Ah oui.
voilà. monsieur truc. Voilà. Après, il y a des informations vraiment intéressantes sur... il relève des superstitions qui sont toujours permanentes. Donc, il les décrit, donc c'est vraiment très intéressant. On est presque dans un travail, aujourd'hui, qu'on qualifierait d'ethnographe. Hein. Donc il a vraiment un plus par rapport aux autres évêques et à leur visite pastorale. Alors, peut-être qu'en France, ailleurs, hein, dans d'autres régions, il y a peut-être des évêques aussi qui ont fait aussi bien leur travail que Jean-Soanen. Mais c'est vrai que pour notre département, c'est vraiment extrêmement passionnant et très riche comme information. Vous vouliez dire quelque chose
avant ? Non, je suis toute oui.
Voilà.
Ouais.
Et donc c'est un vrai plaisir. En plus, c'est une langue qui est très moderne. C'est vrai que les gens, on a toujours un frein quand il faut lire de la littérature fin 17e, début 18e, mais en réalité, il se lit très bien. Son secrétaire, parce qu'évidemment, il n'écrivait pas lui-même ses comptes rendus, ses procès-verbaux, parce que c'est des procès-verbaux, rédigés très très bien, écrits très bien. Donc vraiment, c'est passionnant. Et donc, on a deux registres aux archives départementales qui rassemblent ces comptes rendus et qui sont donc accessibles au public. On les a numérisés. Donc, si des gens sont intéressés, il n'y a pas de problème. Alors, dans le petit journal qui sera donné avec l'exposition, on revient sur ces visites pastorales. Il y a des extraits aussi qui sont indiqués. Je peux en lire quelques-unes parce qu'il y en a quand même des... Je ne vais pas lire une visite en entier, hein, mais il y a des fois des... Alors, par exemple, il est très dur aussi avec son clergé. Hein. Alors, il trouve que quand même, des fois, le clergé n'est pas à la hauteur. Non, mais vraiment, hein, il est intransigeant. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a appelé le petit article sur son sujet, Jean-Soanen, l'intransigeant. Voilà, alors donc je vais essayer de trouver celui qui m'avait beaucoup plu concernant un évêque. Nous ordonnons au sieur Jean-Baptiste Lieutot, titulaire de la chapellenie de Saint-Jean-Baptiste dans Saint-Victor, d'avoir plus de soin de la terre de Saint-Roch et de sa vigne sous les Baux, de chercher les titres de la Chenevière vers Notre-Dame du Plan, comme aussi ceux de la Sens sur quelques maisons de la plus haute rue. Donc ça, en fait, il enjoint son clergé. Eh bien, de bien tenir les terres, parce que comme je le disais, il y a le spirituel, mais il y a aussi le temporel, hein, parce qu'il faut qu'aussi le clergé vive. Alors le clergé vit pour lui-même, mais aussi parce qu'il ordonnance la charité. Voilà, il ne faut pas non plus voir ça uniquement comme mener un grand train de vie, ce n'est pas que ça. Mais il faut... Les gens font des donations pour l'Église, et parfois, l'évêque se rend compte que... Ben, on ne sait plus trop qui a donné quoi, les terres s'abîment. Et souvent, il évoque des débordements de rivières qui font que la terre est enlevée des parcelles, donc les parcelles se diminuent. Donc voilà. Et alors, toujours pour revenir à ce fameux sieur Jean-Baptiste Lieutot, donc qui non seulement ne fait pas très attention aux terres de la paroisse, mais en plus... Il lui ordonne d'avoir les cheveux plus courts, de porter la soutane comme bénéficier, c'est-à-dire qu'il ne devait pas porter souvent la soutane, d'être plus régulier dans sa conduite, à peine d'être poursuivi par le promoteur. Voilà. Donc, en plus, il le menace. Hein. Donc, voilà le genre de remarques qu'il peut faire concernant son clergé. Mais les laïcs, comme je vous dis, ne sont pas exclus. Les pénitents aussi, des confréries. Vous savez que nous sommes dans une région où il y a beaucoup de confréries. Et là aussi, ils trouvent qu'il y a vraiment du laisser-aller. Donc, par exemple, là, je peux en lire un extrait parce que c'est assez amusant. Comme les confréries, comme celles des pénitents, que les autres ont été dans leur origine de saintes conjurations de pénitence, mais sont quelquefois devenues dans la suite des comédies de religion, par les abus criants qui s'y sont glissés. Le premier qu'on y fait consister souvent toute la pénitence dans la singularité de l'habit. C'est amusant ça. Le second que par un esprit tantôt de débauche pour les libertins, tantôt de gain sordide pour les saints patrons, on profane plus impunément les fêtes des confréries par des jeux, des danses, des ivrogneries. Troisièmement, qu'on prête quelquefois aux autres ou l'on emploie pour sa famille les offrandes des autels, donc détournement de dons. Non mais... Quatrièmement, que l'on consomme souvent les capitaux, même en dépenses non nécessaires, sans formalité et sans quittance, pour jeter un voile impénétrable sur les mauvaises administrations, donc mauvaise gestion. Cinquièmement, qu'on ne rend point les comptes à la fin. ou qu'on les rend sans auditeurs et sans bonne foi. Nous ordonnons à tous les confrères de regarder leur société comme un plus grand engagement à une solide dévotion. Défendons, sous peine d'interdit ipso facto, de leur chapelle d'exposer toute danse, tout tambour, tout jeu profane, pareillement de prêter ou divertir l'argent des quêtes ou des rentes, voulant qu'il soit mis dans un coffre à deux clés. Voilà, donc ça ne plaisante pas avec Jean Soanen. Et alors après, l'inconnu pour l'historien, c'est est-ce que ces visites ont été suivies des faits ? Voilà, on est quand même dans un département, aujourd'hui un département, mais là, un diocèse reculé, avec des villages éloignés, l'évêque qui ne venait pas non plus tous les 15 jours. Voilà, ça c'est l'inconnu. Il revient dans plusieurs paroisses à des années de distance. Il constate parfois des évolutions, enfin souvent il constate qu'il n'y a pas d'évolution. Donc on peut quand même soupçonner qu'il y a quand même une inertie par rapport à ses préconisations, donc ce qu'on appelle les ordonnances pastorales. Et voilà, parce que il y a aussi, nous sommes dans un diocèse difficile, la vie est difficile.
Qu'est-ce qu'on va écouter ?
Alors, ça peut paraître un clin d'œil, mais c'est un morceau qui s'appelle Fishing for Religion. Voilà, donc, mais c'est un morceau surtout très, très dansant, très estival, d'un groupe qui s'appelle Arrêté de Développement.
On écoute.
Merci.
Fishing for religion.
Et nous revoici dans Histoire d'archives avec Laure Franek.
Oui, donc pour revenir sur ce diocèse, hein, donc nous avons évoqué la figure remarquable de Jean Soanen, mais finalement ce diocèse, comme beaucoup d'autres diocèses, va disparaître à la Révolution française. Alors pourquoi ? Eh bien parce que après la Révolution française, les diocèses, l'emprise territoriale des diocèses va être calquée sur le nouveau découpage administratif que sont les départements. Et voilà, Senez ne devenant pas une préfecture, eh bien ce territoire de l'ancien évêché de Senez, qui était l'un des plus petits de France, hein, je rappelle, va être rattaché au nouveau grand diocèse de Digne. Et donc il n'y aura plus d'évêque de Senez. Donc après Jean Soanen, il y a quelques évêques, mais bon, le dernier, ce sera à la Révolution française. Voilà, donc ça, Monsieur Labadie, directeur des archives départementales, revient dans son article justement sur la disparition de cet évêché et ce qu'on appelle la vente comme biens nationaux, puisqu'évidemment, quand il y avait à la Révolution française, les révolutionnaires ont vendu les biens de l'Église. Donc, on décidait que ça devenait des biens nationaux et que tout à chacun, en tout cas ceux qui avaient de l'argent, ont pu racheter qui l'ancien palais épiscopal, qui l'ancien presbytère, et qu'il y a eu vraiment une redistribution des richesses à ce moment-là, et dispersion d'un certain nombre de biens, et notamment mobilier. Hein. Parfois ensuite des destructions, parce que parfois, un des cas les plus célèbres, hein, c'est l'ancienne abbaye de Jumièges en Normandie, les biens ont été vendus, mais en fait, c'était pas pour habiter, on n'habitait pas dans une abbaye quand on pouvait habiter dans un presbytère, et donc parfois, ces bâtiments ont servi de carrière. Hein. Donc les destructions n'ont pas été forcément le fait directement des révolutionnaires, mais aussi de la vente de ces biens, et du fait qu'on ait utilisé finalement ces biens comme réservoir de ressources, de matériaux pour d'autres constructions. Voilà, mais là, ce n'est pas le cas. Le palais épiscopal, l'ancien palais épiscopal est toujours debout, même s'il a été bien remanié. Et il fait face à la cathédrale l'ancienne cathédrale de Senez. Et c'est aujourd'hui une habitation d'un particulier. Voilà. Donc, et alors, pour finir, la troisième partie de notre exposition, qui est... plus classiquement, ce que nous faisons tous les ans, c'est que nous donnons à voir au public une sélection d'objets issus de l'ancienne cathédrale de Senez. Donc, alors, d'objets réputés avoir été présents au moment, j'allais dire, de l'âge d'or du diocèse de Senez, qui est celui de Jean Soanen. Donc nous présentons le lutrin à armoire du XVIIe siècle, qui est un meuble imposant, vous savez, qui était le lutrin, c'est le meuble sur lequel on posait ce qu'on appelle les antiphonaires, hein, ces manuels, ces livres de chant pour chanter pendant la messe. Comme c'est des ouvrages très imposant, et bien il fallait un support pour pouvoir les poser et les tenir presque debout pour que le chanteur puisse lire les partitions. Donc nous allons montrer ce fameux lutrin. Un missel romain, alors là aussi intéressant, un missel romain de la fin du XVIIe, donc très certainement qui est passé entre les mains de l'évêque Soanen. Intéressant parce que le missel romain, c'est tout à fait un ouvrage qui est justement fait partie de cette fameuse remise en ordre de la religion catholique, hein, qui se repositionne et qui surtout qui codifie son rite pour notamment le rite en latin à l'époque, pour contrer, j'allais dire, la réforme protestante. Donc ça, c'est très intéressant. Alors le missel romain, là, c'est le missel vraiment de l'Église. Et puis il y avait la déclinaison pour les paroissiens. Hein. Les gens avaient aussi des petits missels pour suivre, qu'on trouve dans beaucoup de familles encore, qui ont une tradition chrétienne. Voilà, ensuite nous présentons deux tableaux. Un tableau intéressant parce que la Marie-Christine Braillard, qui est l'ancienne conservatrice départementale des musées des Alpes-de-Haute-Provence, aujourd'hui en retraite mais qui continue à collaborer avec nous, propose une nouvelle une nouvelle origine au tableau qui est classé, que je ne dis pas de bêtises, mais qui est classé au titre des monuments historiques, mais sous le titre La passation de pouvoir entre les évêques. C'est un tableau assez énigmatique où on voit deux mains qui se touchent, mais juste deux bras en fait, avec derrière il y a un coffre avec la mitre et la crosse d'un évêque. Et donc en 1988, quand le tableau a été classé au titre des monuments historiques, on a dit passation de pouvoir entre les évêques. Et en fait, en cherchant bien, Marie-Christine Braillard a trouvé qu'en réalité, c'était des tableaux, de dévotion personnelle. Il y a un phylactère avec un texte en latin qui est Illi Servo Fidem et qui veut dire littéralement sa fidélité à son église. Donc en fait, c'est un tableau qui n'était pas destiné du tout à aller dans une église, mais plutôt dans une chapelle ou un petit oratoire personnel. Et c'est vraiment un tableau de méditation religieuse. Et donc très intriguant. Et donc là, c'est intéressant parce qu'elle propose une nouvelle origine, une nouvelle explication à ce tableau qui est un tableau du XVIIe siècle, qui est actuellement présenté dans l'ancienne cathédrale et qui sera donc visible dans l'exposition à Digne-les-Bains. Deuxième tableau, un grand tableau du XVIIe, le Christ Sauveur désigné par Jean-Baptiste. Donc là, cette fois-ci, un tableau moins énigmatique dans son iconographie. Nous n'avons pas démonté la table d'autel, mais nous avons utilisé des photos de l'inventaire régional que je salue parce que nous avons collaboré avec ce service de la région pour cette exposition et notamment nous utilisons leurs très belles photos. Donc la table d'autel parce que c'est une table d'autel de 1706 et donc on est en plein dans le 18e et elle a été consacrée par Jean Soanen comme l'inscription l'atteste. Nous exposons aussi un très beau calice en argent du début 17e, qui donc, on le suppose, a sans doute été manipulé par Jean Soanen. Puis nous évoquons les fameuses tapisseries de Senez, donc il y a un ensemble de tapisseries classées au titre des monuments historiques, sachant que fort malheureusement, en 1982, quatre des plus belles d'entre elles ont été dérobées, n'ont jamais été retrouvées. Voilà, mais donc nous revenons sur ces tapisseries et nous proposons une reproduction en noir et blanc des tapisseries qui ont été volées en 1982. Puis nous terminons par un petit angelot qui provient sans doute d'un ancien retable qui a été en partie démonté et qui c'est un petit clin d'œil parce que ce petit angelot il était tout seul posé dans un coin un peu perdu loin de son retable d'origine et donc on termine sur cette petite sculpture qui est abîmée, qui a été attaquée par des xylophages. Voilà, c'est souvent malheureusement le destin d'un certain nombre d'objets en bois. Mais ces expositions sont là aussi pour faire le point sur l'état, ce qu'on appelle l'état sanitaire des objets, proposer des petites restaurations. Voilà, et puis de montrer ces objets, ça permet de les faire connaître et d'éviter aussi les vols. Parce que des objets connus, ben même s'ils sont volés, on les retrouve plus facilement. Mmh. Voilà. Et donc, on ne désespère pas un jour de retrouver ces fameuses tapisseries des Flandres qui ont été dérobées. Oui, en 1982, le 15 août, dans la nuit du 14 au 15 août. Voilà. Et très clairement, autant pour des vols qui existent toujours, malheureusement, et plus que jamais, de vols, par exemple, d'objets liturgiques qu'on vole pour les matériaux. Hein. Mmh. C'est le drame d'ailleurs, c'est que là on n'a aucune chance de retrouver les objets. Objets sont fondus et il n'y a pas d'intérêt pour l'objet en lui-même. Là, les tapisseries, très clairement, ont été volées, pas pour les fondre, parce que ce sont des tapisseries, donc ont été volées pour être vendues ensuite à un collectionneur. Voilà, donc on les retrouvera sans doute parce que peut-être pas tout de suite, parce que effectivement normalement elles sont pas censées être détruites, donc elles risquent de ressurgir un jour. Elles sont très très bien, elles sont connues, elles sont photographiées, elles font partie il y a une immense base de données hein, des objets volés qui est internationale. Il y a des pour lutter contre le trafic des objets d'art qui est très important hein, C'est un moyen aussi de blanchir de l'argent, hein, le trafic d'objets d'art. Et donc, je pense, moi, j'ai bon espoir. Je pense qu'elle les retrouvera un jour et ce serait bien qu'elles retrouvent leur place dans l'ancienne cathédrale de Senèze. Mmh. Voilà, donc j'invite tout le monde à venir à l'inauguration, déjà vendredi 5 juillet à la cathédrale de Digne-les-Bains. Attention, hein, parlons de Senèze, mais l'exposition aura bien lieu à la cathédrale de Digne-les-Bains. On envisera éventuellement la suite avec la commune de Senèze, voir comment on peut prolonger éventuellement l'exposition à Senèze même. En tout cas, il y aura une lecture d'archives autour des visites pastorales de Jean Soanen à Senèze, cette fois devant le parvis de la cathédrale. A priori, ce sera le 9 août, donc cet été, sous réserve de confirmation. Mais là, j'invite nos auditeurs à vérifier nos actualités sur notre site internet pour la mise à jour de cette information. Et sinon, les deux prochains rendez-vous, jeudi 27, nous accueillons Nicole Pellegrin, qui est une historienne spécialiste de l'époque moderne, qui va nous parler d'un sujet tout à fait étonnant, c'est de la mode vestimentaire, la nouvelle mode vestimentaire au moment de la Révolution française, et notamment l'introduction, l'attrait pour le voile, ce qu'on appelle le voile antiquisant, donc en référence à ces figures antiques qu'on représentait avec un voile sur la tête. Et elle va évidemment tirer des liens vers un sujet tout à fait d'actualité, c'est le port du voile aujourd'hui dans une autre religion. Mais voilà, c'est intéressant de voir que ce sont des sujets là aussi, hein, toujours. Hein, la permanence en histoire, elle est très forte. Donc ça, c'est Nicole Pellegrin, jeudi 27 juin aux archives départementales à 18h, entrée libre comme toujours. Et ensuite, le jeudi 4 juillet à 18h toujours, cette fois-ci, c'est Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales, qui reviendra sur un fait divers qui a eu lieu à Barcelonnette au début du XXe siècle. C'est un époux pas très sympathique, vu ce que les archives laissent transparaître, qui en a beaucoup après sa femme, qui souhaite divorcer, ce que le mari ne supporte pas. Et donc, il y aura tentative d'assassinat par pistolet sur sa femme. Et nous avons en fait tout le détail du procès, mais aussi des lettres échangées entre les époux, entre les familles. On a vraiment un dossier très complet qui a été trouvé dans un fonds d'études notariales de Barcelonnette. Et donc, M. Labadie reviendra sur ce fait divers qui est une bonne entrée en matière pour montrer aussi les relations entre époux à cette époque, la difficulté pour les femmes de s'émanciper d'un mari, et aussi voir comment les voies de fait et les tentatives de meurtre sur des époux que l'on juge infidèle, ce qui a priori n'était même pas le cas, était finalement pas très lourdement condamné. Voilà. Et ensuite, il y aura... Alors là, vraiment, si les auditeurs sont intéressés par des conférences, vraiment, je les invite à aller sur notre site internet. La conférence ensuite aura lieu sur le 18 juillet. Toujours Jean-Christophe Labadie qui reviendra sur les rafles des Juifs dans le département. Et voilà. Mais bon, il y aura toute une série d'événements et de lectures au cours de l'été. Et c'est souvent le jeudi pour les conférences aux archives, mais ça peut être aussi un autre jour quand nous décentralisons nos interventions dans le département. Voilà, je vous remercie bien.
Merci Laure Franek et à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.